BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soyez comme chez vous dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. On est ensemble pendant une demi-heure. Au programme dans cette émission, inclusion et emploi des seniors. Ce sont parmi les priorités RH du groupe PepsiCo. Nous serons avec sa DRH. Dans 10 minutes, vous nous posez aussi vos questions et on y répond avec notre avocat en droit du travail et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan, aujourd'hui on vous explique tout sur le forfait journée. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Nous serons bientôt à 100 jours des JO. Quelles conséquences vont avoir les Jeux sur l'organisation du travail et celle des entreprises? On fera le point avec nos invités dans le meeting. Et puis en fin d'émission, on vous présente une start-up qui travaille sur la santé mentale grâce aux chevaux. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Bonjour Anne-Sophie Jameau.
Bonjour Erwan.
Merci d'être sur le plateau d'Happy Boulot. Vous êtes la DRH de PepsiCo. En quelques chiffres, entreprise présente dans 200 pays, une dizaine de marques, dont Pepsi, Lipton, Lay's ou Doritos. On parle d'inclusion. Oui. Et notamment du public senior. Avec vous aujourd'hui dans cette émission, on va parler de ce que vous mettez en place dans votre entreprise multinationale chez PepsiCo. Mais d'abord, quel regard aujourd'hui on porte aujourd'hui sur ces personnes-là, donc sur les seniors? Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on met derrière ce mot senior, parce que parfois on dit que c'est les plus de 50, 55, parfois c'est 60, parce que l'âge de la retraite recule aussi. Déjà, comment vous le qualifiez? Et puis, c'est quoi pour vous les enjeux qu'il y a dans les entreprises autour de ces salariés-là?
Alors, d'un point de vue national, aujourd'hui, on sait qu'en 2025, un actif sur trois aura plus de 50 ans.
Donc, sera senior, c'est ça?
Sera senior. Alors, le qualificatif de senior a plusieurs définitions. Oui. Chez nous, ça commence à partir de 45 ans pour certaines mesures.
C'est hyper jeune.
Mais je sais, mais j'en fais partie.
C'est pas trop dur à 45 ans de dire à un salarié
non, mais c'est des mesures plutôt d'accompagnement. Nous, on fait partie des 10% d'entreprises déclarées pour d'avoir pris le sujet en main et d'avoir associé des mesures concrètes au travers d'un accord senior.
Alors, on va en parler parce que vous avez signé justement en début d'année un accord qui vise à renforcer le maintien de l'emploi des salariés seniors, maintenir au moins 15% de salariés qui ont plus de 45 ans pendant 3 ans.
Alors notre accord est triennal, mais évidemment l'effort est beaucoup plus sur le long terme. Mais c'est évident que les entreprises ont une vraie responsabilité avec le recul de l'âge de la retraite à 64 ans.
Bien sûr.
Quand on a 45 ans aujourd'hui, on est au milieu de sa carrière professionnelle.
En fait.
Absolument.
Très jeune senior.
On a encore plein de choses à faire, mais c'est surtout comment on capitalise justement sur l'expérience de ces salariés-là pour les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail et comment on accompagne aussi ces collaborateurs-là à continuer de se développer toute leur vie.
Alors, rentrons justement très concrètement dans les sujets que vous avez décidé de traiter aussi chez PepsiCo sur ce volet-là, ce que vous avez engagé. Recrutement de nouveaux salariés seniors, ça c'est un engagement que vous prenez?
Alors c'est un engagement qu'on n'a pas nécessairement sanctuarisé dans l'accord. En revanche, on souhaite maintenir le pourcentage de nos collaborateurs seniors. Et donc du coup, comme on a des départs à la retraite chaque année, ça veut dire qu'on recrute aussi des collaborateurs seniors.
Mais pour quelle raison? C'est de l'image ou il y a pour vous derrière une expertise,
non,
une plus-value?
C'est de la diversité avant tout. Parce que si on a une entreprise avec qu'une seule ou deux générations de représentés, on ne va pas représenter les consommateurs qui sont les publics auxquels s'adressent nos produits. Donc c'est des questions de diversité. Et puis on est convaincu que les générations ont des choses à s'apporter, toutes les générations ont des choses à s'apporter. Et donc les seniors, il faut aussi les chouchouter. On chouchoute beaucoup les juniors, mais c'est bien de chouchouter les seniors également.
Parce que ça marche dans les deux sens, c'est un peu ce que je comprends. C'est-à-dire que les seniors traditionnellement forment les plus jeunes quand ils arrivent dans l'entreprise pour leur expliquer un petit peu les rouages. Mais ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens.
Absolument.
Où les juniors vont former les plus anciens.
Sur des thématiques qui vont peut-être être parfois un peu différentes, les seniors vont faire des formations métiers, quand les juniors vont faire des formations, je ne sais pas, sur les nouvelles technologies, par exemple.
Et donc ça, vous le développez?
Oui, c'est quelque chose qu'on développe en interne. Ça fait partie de la transmission des savoirs.
Donc il y a un budget dédié à la formation?
Il y a un budget dédié à la formation pour les seniors. On a un budget relativement conséquent chez PepsiCo, puisqu'on consacre plus de 2,15% de notre masse salariale à la formation en général et on a un budget dédié pour nos seniors également.
Je vois que vous aménagez aussi les postes de travail, ça veut dire quoi?
Alors en fait notre accord s'articule sur trois piliers. Le premier c'est la transmission des savoirs dont je viens de vous parler, le deuxième c'est le maintien dans l'emploi et le troisième c'est l'accompagnement, la transition de fin de carrière. Donc sur le maintien dans l'emploi, on a plusieurs mesures qui sont extrêmement concrètes. On a des entretiens de carrière alors qu'on fait pour l'intégralité des collaborateurs, mais
parce
de façon...
C'est obligatoire déjà.
C'est obligatoire, mais tout dépend ce qu'on fait de nos entretiens de carrière avec un vrai suivi derrière. Donc pour les seniors, c'est le cas comme pour les autres collaborateurs. On a également donc un budget formation dédié, je vous en ai parlé. On a des mesures d'aménagement des postes de travail, des études qui sont faites, des études personnalisées faites par des ergonomes pour des problèmes de santé ou autres, pour avoir un meilleur confort dans son activité. On a également la possibilité de pouvoir cumuler des jours d'ancienneté pour pouvoir prendre sa retraite un peu plus par anticipation. Et on offre également la possibilité aux collaborateurs de pouvoir faire une demande de temps partiel 30 mois avant leur départ effectif en retraite, qui peut être à 80%, qui est rémunéré à 90% par la société avec un maintien des cotisations.
Une manière aussi de garder les talents, les seniors qu'on ne veut pas voir partir pour qu'ils puissent rester dans des bonnes conditions le plus longtemps possible.
Surtout qu'ils continuent à s'épanouir parce que ça peut paraître long de terminer sa carrière professionnelle à 64 ans et une fatigue qui peut, même si on n'a pas de poste considéré comme vraiment pénible, mais c'est bien de pouvoir accompagner nos seniors jusqu'au bout.
Autre volet, puisque là on parlait des seniors, il y a un autre enjeu qui est important et sur lequel vous êtes aussi engagé à travers plusieurs mesures chez PepsiCo, c'est celui des travailleurs handicapés.
Oui.
Là encore une fois, en s'adaptant à ces salariés-là.
Alors, autant sur les seniors, on faisait déjà beaucoup de choses et on a voulu progresser. Autant
là, c'est plus nouveau.
C'est plus nouveau. On faisait des choses, mais peut-être qu'on ne le communiquait pas suffisamment, peut-être qu'on n'était pas suffisamment intentionnel. Et du coup, au travers de la signature d'une charte handicap en octobre 2023, on a affiché très clairement à la fois une stratégie avec un objectif associé qui est d'atteindre 8% de salariés porteurs de handicap physique, visible ou invisible.
Et on brise des tabous aussi, mine de rien, derrière de la peur de dire qu'on est handicapé ou qu'on a des difficultés. On libère aussi la parole de ce point de vue-là.
Ouais, c'est la principale, je pense, barrière, parce que ce qu'on se dit...
Parce qu'il y a beaucoup de handicap invisible.
Il y a beaucoup de handicap invisible et il y a potentiellement des salariés qui n'osent pas déclarer qu'ils ont ce statut de travailleur handicapé. Donc c'est comment on crée un climat suffisamment propice pour libérer la parole, pour donner l'envie aux collaborateurs de se montrer tels qu'ils sont.
Et ça marche ?
Alors, par rapport aux actions qu'on a commencé à mettre en place au mois d'octobre, effectivement, on commence à voir les premiers signaux qui sont très encourageants. On a des salariés qui entament les démarches, qui nous sollicitent pour entamer les démarches de reconnaissance. Certains qui étaient reconnus, qui nous le déclarent. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire, on le sait. Et pour ça, on a bâti une stratégie très volontariste. Et on espère embarquer également dans cette stratégie nos partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs.
Anne-Sophie Jameau, il nous reste une minute pour mieux savoir quelle... ça passe vite, bien sûr, je vous l'avais dit. Pour mieux savoir quel manager vous êtes, c'est Patrice qui nous amène tout de suite la boîte du DRH, laquelle traditionnellement je vais vous inviter à piocher un premier papier.
D'accord.
Une phrase à compléter pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes.
Alors, dans ma boîte, je refuse de m'occuper de... Alors là, c'est une question piège parce que je crois que je refuse jamais de m'occuper de quoi que ce soit.
C'est peut-être le sens de est-ce que vous déléguez ?
Ah oui, je délègue, j'ai une équipe. Je devrais.
Quand on est DRH, on gère pas forcément tout.
Non, on gère pas tout, mais on gère quand même beaucoup de choses. On a plusieurs casquettes en tant que DRH, donc je sèche.
Prenez-en un autre.
J'en prends un autre.
Oui.
Dans ma boîte, les afterworks, c'est souvent, parfois, c'est quoi ? Ah, c'est souvent.
Oui.
Ah oui, on a une devise, mais comme d'autres, work hard et play harder. Et oui, les afterworks, c'est très souvent.
Et c'est organisé par vous ou ça s'organise entre les salariés ?
Les deux, voilà.
C'est comme ça que ça marche le mieux, finalement.
Exactement.
Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, Anne-Sophie Jameau, DRH de PepsiCo. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joint tout de suite l'avocate Nathalie Desvernay, avocate associée chez Bird & Bird, pour répondre à cette question. Nathalie, qu'est-ce que le forfait journée ?
Alors, le forfait jour, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'organisation du temps de travail. Il est réservé aux cadres et aux salariés très autonomes dans leur organisation. Il doit être d'abord prévu par le contrat de travail, évidemment, et souvent, il est encadré par la convention collective qui s'applique à l'entreprise. Le forfait jour, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut travailler jour et nuit ? Non, il y a des règles très claires qui s'appliquent au forfait jour, notamment le respect des repos quotidiens, 11 heures minimum par jour de repos quotidien, et hebdomadaire, minimum 35 heures de repos consécutifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de travail ? Ça veut dire que vous pouvez travailler le samedi, y compris lorsque ce n'est pas votre jour habituel de travail, puisque c'est un jour ouvrable. Ça sera décompté dans votre forfait jour, donc dans les 218 jours. En revanche, attention avec le dimanche, c'est un jour qui est non travaillé et qui, s'il est exceptionnellement travaillé, fera l'objet de repos supplémentaires.
Merci Nathalie Desvernay, avocate associée chez Bird & Bird. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Nous serons bientôt à 100 jours des JO, les Jeux Olympiques. Quelles conséquences vont avoir ces Jeux sur l'organisation du travail et celle de nos entreprises ? C'est la question qu'on se pose avec nos invités que j'accueille. Audrey Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Association nationale des DRH, l'ANDRH, et face à vous, Marc Landré. Bienvenue Marc.
Bonjour.
Associé SIA Partners. Alors Marc, vous avez développé une offre chez SIA Partners, je rappelle, c'est un grand cabinet de conseil, pour accompagner les entreprises le plus en amont possible et les aider à trouver les solutions aux problèmes qu'elles vont rencontrer pendant cet été, hein, avec les Jeux. Ils vont être nombreux déjà ou pas ? Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut se préparer. Il faut peut-être même déjà être prêt, là, en mois d'avril.
Idéalement, il faudrait déjà être prêt. Il y a beaucoup d'entreprises, on sait qu'il y a plus de 600 000 commerces à Paris, qui toutes vont être impactées d'une manière ou d'une autre par l'organisation des JO. Que ce soit en matière d'organisation du travail, en matière de logistique, en matière de fourniture, en matière de cybercriminalité, de cybersécurité, en matière d'approvisionnement, en matière de d'employabilité, d'engagement des salariés.
Personnel.
En vérité, sur l'ensemble de la chaîne d'activité d'une entreprise, qu'on parle de commerce, qu'on parle de service, tout va être impacté. Donc plus tôt on s'y prépare, moins on aura de problèmes le jour J, lorsque les JO commenceront. Et on aurait tort de croire qu'en vérité, les désagréments, si désagréments il y a, commenceront le 26 juillet, jour de l'ouverture. Ça va commencer bien avant. Pour ceux qui habitent Paris, est-ce que vous avez vu comment ça se passe place de la Concorde ? Place de la Concorde, il n'y a plus qu'une seule voie de voiture. Parce que c'est en anticipation des JO qu'on commence à voir les zones de circulation, les zones où on pourra ou non se déplacer pendant les JO.
Ça commence
à la Concorde, c'est un avant-goût.
Ouais.
Et ça va continuer comme ça, jusqu'au 26 juillet. Et véritablement, à partir de début juillet, mi-juin, début juillet, là, on aura vraiment les conditions réelles de déplacement et de circulation pendant les JO, et c'est là où il va vraiment falloir modifier les choses, parce que ça risque d'être un peu plus compliqué qu'à la normale.
Bon, généralement, dans cette émission, on essaie d'être un peu positif.
Ça, c'est pour Audrey.
Alors, Audrey, je m'adresse à vous, parce que maintenant, on veut savoir comment on va réussir aussi cette période. C'est un sujet d'angoisse, d'abord, pour les patrons.
Alors, la clé de toute cette période est en effet la préparation et l'anticipation. Est-ce que c'est une source d'angoisse ? C'est plutôt une source de questionnement en entreprise. Les salariés, la direction, le management au sens large, les partenaires sociaux nous posent la question de savoir comment on va s'organiser. La question, c'est celle-ci, comment on s'organise ? Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont discuté avec leurs partenaires sociaux et qui ont communiqué sur l'organisation. Donc, il en reste en effet...
Vous parlez des entreprises parisiennes ou ça concerne vraiment...
Alors justement, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on est sur 41 sites qui vont être concernés. Donc, ça ne concerne pas que Paris.
Oui.
Et donc, les entreprises se sont organisées ou sont encore en train de s'organiser pour adapter l'organisation du travail, pour adapter notamment particulièrement le télétravail, si on peut proposer cela à des métiers.
On a eu le Covid, ça nous a un peu aidé aussi. On a les bases.
Oui, c'est vrai qu'on a cette expérience, mais il faut toujours avoir en tête que à peu près 40% des métiers sont télétravaillables. Donc il faut aussi avoir d'autres idées pour aménager l'organisation du travail.
Voilà. Marc Landré.
La vraie problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de professions qui vont être impactées, dont on ne connaît pas encore la mesure de l'impact. Prenez les déménageurs.
Mais on va la connaître avant que les Jeux Olympiques.
Idéalement, ça serait quand même mieux, parce qu'après, ça sera vraiment trop tard.
Mais en tout cas,
il y a des discussions pour beaucoup de professions. Je pense aux déménageurs, je pense aux transporteurs de fonds, je pense par exemple aux salariés du bâtiment. Pour tout ce qui va se passer dans Paris, il y a des discussions actuellement avec la préfecture de police de Paris pour savoir comment pourront circuler, se déplacer les salariés de ces entreprises-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas fixé. et de leur capacité à se déplacer, à se mouvoir dans la capitale dépendra l'organisation des entreprises dont ils dépendent.
Alors, oui, Audrey Richard.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont demandé à leurs salariés quand même de prendre des vacances pendant oui. cette période-là. Et donc, on a poussé les personnes à vraiment prendre des périodes assez
Audrey,
larges
de
congés.
Pour celles qui vont avoir une activité en baisse.
Bien sûr.
Parce que pour celles qui vont avoir une activité en hausse, au contraire,
oui, la restauration, l'hôtellerie. Et bien au contraire, on va chercher à recruter là-dedans.
Bien sûr. Mais déjà, il y a tout un pan de nos salariés qui vont être en congé à ce moment-là. Et après, sur l'organisation du travail, en effet, il va falloir changer des rythmes et notamment circuler, je pense aux livreurs, circuler la nuit. Et donc, changer les plannings, adapter les
horaires d'ouverture.
Donner des primes de nuit aussi, parce qu'on ne travaille pas la nuit.
Pas que de nuit d'ailleurs. Oui. Pas que de nuit, parce que en prime pour des surcharges de travail, aussi en termes de stress, en termes de tension, parce que quand vous allez avoir, pour les métiers qui sont en communication avec le public, des étrangers, avec la différence de la langue, avec du stress, parce qu'il faut savoir un point tout bête. On attend 15 millions de personnes en France et à Paris cet été. C'est 50% de plus que l'été 2023, par exemple.
Oui.
Or, les capacités de transport ne vont être augmentées que de 15%. Oui. Ça veut dire que dès aujourd'hui, et la région et les transports publics parisiens disent qu'il y aura une saturation des transports. Pourquoi ? Je vous donne l'exemple du Stade de France. Le Stade de France, organiser un match au Stade de France, faire aller venir 80 000 personnes pour assister au match. Sauf que ça va être tous les jours, trois fois par jour.
Et ça, on ne sait pas faire.
Et puis
c'est inédit, en fait,
on
nous dit que c'est 15 millions.
Et en plus, on ne sait pas le faire dans plein de sites différents dans Paris. Ça veut dire que vous allez avoir un système de transport qui va être complètement ankylosé, qui va être saturé du fait d'une surcharge de déplacement dont on ne connaît pas encore l'ampleur, parce qu'il y a effectivement, comme disait Audrey, des gens qui vont partir en vacances, il y a des Parisiens qui vont fuir Paris en se disant que ça va être un tel bordel, on ne va pas rester. Il faut savoir qu'à Londres, et je finirai là-dessus, à Londres, en 2012, par exemple, il y avait eu un appel au télétravail, alors que ce n'était pas encore dans la norme comme ça l'est aujourd'hui. Il y avait un tiers de Londoniens qui avaient fui la capitale. Donc on peut estimer, en analogie, que grosso modo, vous allez avoir à peu près le même nombre de Parisiens qui vont fuir la capitale en se disant « je serai mieux ailleurs ».
Vous m'angoissez. mais effectivement, vous le disiez, Marc Landré, associé chez Sia Partners, en fait, c'est du jamais vu. Paris n'a jamais, je parle de Paris parce que c'est quand même là que va se concentrer l'essentiel de l'événement, n'a jamais accueilli autant de personnes.
Mais comme les capitales qui avaient accueilli les JO précédemment aussi. Je veux dire, Londres en 2012, ils n'avaient pas accueilli les JO depuis un siècle. Nous, c'est pareil, un siècle.
Et ça s'est bien passé.
Non, mais c'est vrai que c'est très français aussi de dire on ne va pas y arriver.
On parle que du travail en retard.
Oui, c'est ça. Oui.
Après, il y a quelques initiatives peut-être qu'on
Alors, allons-y, justement, soyons très concrets. Est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses très pragmatiques pour que ça se passe bien?
Donc, il y a des entreprises qui peuvent avoir la chance aussi d'avoir plusieurs sites géographiques et justement qui ont proposé à leurs salariés d'aller travailler sur un autre site qui serait plus proche du domicile, et donc pour faciliter la vie du salarié et de son équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc ça c'est
déjà mis en place par certaines boîtes.
Dans certaines entreprises, ça a pu déjà être mis en place, dans la mienne particulièrement. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, après, si je pense à autre chose, des entreprises ont décidé de doter leur environnement de travail, leurs salariés de vélos pendant cette période-là.
Est-ce qu'on va pouvoir vraiment circuler en
Apparemment, oui.
À pied, à vélo, oui. En voiture, ça va être plus compliqué. Surtout que 75% des billets ont été achetés par des Français à date, et donc ils vont venir de province à Paris. Donc les transports seront saturés, mais les routes aussi. Et sachant qu'il va y avoir, entre les zones rouges, là où se situeront les sites, il y a 21 sites à Paris, en région parisienne sportive, là ça va être complètement fermé. Mais un autre exemple pour compléter ce que disait Audrey, à l'instant, vous avez des entreprises qui ont décidé de financer des colonies de vacances pour les enfants des salariés, pour que les 10 salariés puissent être beaucoup plus libres et beaucoup plus disponibles pendant la période des JO, sans avoir à s'occuper de leur charge
familiale. Ça c'est les entreprises du CAC 40, c'est pas la PME du... TPE Dupont.
Ah bon ? Ah oui, bien sûr.
D'accord, mais donc il faut avoir de la trésorerie quand même pour ça.
Il faut avoir un peu de trésorerie, il faut avoir un peu d'anticipation.
Ouais.
Il faut préparer.
On peut citer le covoiturage aussi, mais bon, ça risque d'être compliqué en voiture. Mais certaines ont mis en place, oui.
Il nous reste une minute, ça passe très vite, mais j'aimerais qu'on parle d'un secteur qui, lui, est censé profiter des Jeux Olympiques, c'est l'hôtellerie-restauration. On sait qu'ils ont du mal. On ne sait pas s'ils vont avoir assez de serveurs, s'ils vont pouvoir. Les gens vont vouloir travailler plus tard la nuit, plutôt le matin. Il y a un problème de logement aussi qui est déjà énorme à Paris. Aujourd'hui, tout le monde, quasiment, veut mettre son appartement sur Airbnb. Donc le serveur...
Il est plus baisse, hein.
Les prix baissent, oui, les c'est vrai. Dans les hôtels aussi. Mais il y a quand même ce problème-là de c'est un secteur qui peut en profiter et on ne sait pas s'ils vont pouvoir vraiment tirer.
Deux choses là-dessus. Un, vous avez quand même pas mal de salariés de l'hôtellerie-restauration qui se sont mis en vacances pour pouvoir faire des extras auprès de Sodexo, auprès des autres, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir une rémunération supplémentaire s'ils sortent de leur cadre légal quotidien. Et deuxièmement, vous avez de plus en plus d'entreprises événementielles qui travaillent pour, ce qu'on dit en B2B, pour entreprises qui sont en train de récupérer des logements pour loger pour les salariés, mais pas que de l'hôtellerie-restauration, aussi de l'événementiel au sens large, parce que les conditions de circulation vont être tellement difficiles qu'il faudra bien souvent loger les salariés à proximité des entreprises, des sites de production et des lieux d'événements.
Mais donc il va falloir mieux payer, parce qu'un saisonnier qui cherche du travail au milieu de l'été, il se dit, moi je vais plutôt aller dans une ville en région, en Bretagne, sur la Côte d'Azur, pourquoi je vais aller m'embêter à Paris s'il n'y a pas, gain.
Il y a du travail, et je fais le lien avec la chronique précédente sur l'emploi des seniors, puisqu'à la NDRH, on se bat aussi sur l'emploi des seniors. Et donc, il faut aller chercher aussi nos seniors qui sont en recherche d'emploi.
Mais la rémunération ? Non ?
Vous avez des primes ?
Il va falloir mieux payer à Paris ou pas forcément ? Vous pensez mieux payer, ça va fonctionner ? Moi,
Les entreprises sont en train de s'organiser pour,
Regardez, dans la fonction publique, dans certaines entreprises, vous avez des primes JO qui ont été négociées entre partenaires sociaux et qui sont maintenant distribués. Vous prenez par exemple la police, c'est 1950 euros de primes pour les forces de sécurité qui vont être déployées.
Mais eux n'ont pas le droit de prendre de vacances. C'est-à-dire vacances interdites.
Mais c'est pas parce que.
Décalées.
Mais vous avez d'autres salariés dans le privé qui n'ont pas le droit de prendre de vacances aussi parce qu'elles auront été décalées en négociation ou pas par leur employeur, mais qu'il faudra quand même compenser la surcharge de travail et de pression.
Ben, on va en reparler de tout ça. On va essayer de faire par étape au moins une fois avant les Jeux, peut-être, voir comment tout ça évolue.
Et s'anticiper. Ça s'anticipe, ça se prépare en amont. Et si on attend la dernière minute, on est mort.
Et rester optimiste, parce que c'est vrai que le français est par nature pessimiste. Donc on va essayer de se dire que ça va bien se passer. Merci beaucoup Marc Landré, associé Sia Partners, et Audrey Richard, présidente de l'Association Nationale des DRH, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Avec Stéphane Moriou, Stéphane, vous nous aidez à ne pas trop culpabiliser face au changement.
Ne redoutez pas d'être désorienté si vous subissez un changement dans votre organisation. Démonstration. Tout changement suit quatre phases. Orientation, désorientation, réorientation, intégration. La phase 1, l'orientation, c'est le moment où la volonté de changement est annoncée. La phase 2, la désorientation, est la confrontation entre l'idée de changement et la réalité. La phase 3, la réorientation et l'enrichissement du projet avec de nouvelles données. La phase 4, l'intégration et la transformation de la vision en nouvelle réalité. Il existe deux manières de rater un programme de changement. Soit sombrer en désorientation, soit tenter d'éviter la désorientation pour y retomber plus profondément. La désorientation n'est pas notre ennemi. Si nous sommes désorientés, c'est que nous sommes vivants en bonne santé. La vraie clé du changement n'est pas l'évitement de la désorientation, mais notre capacité à gérer activement le passage de la désorientation à la réorientation. C'est QFD.
Happy Boulot, le Lab.
Le Lab avec Jeanne Spicarolène qui est de retour. Jeanne, en 4 minutes avec vous aujourd'hui, aussi avec notre invité qui a mis au point une innovation peu commune pour notre bien-être à tous.
Oui, Erwan, aujourd'hui on reçoit Nadej Gajic. Bonjour Nadej.
Bonjour Jeanne.
Bienvenue.
Bienvenue. Vous êtes directrice générale d'Ecus. C'est une start-up de médiation équine, donc avec des chevaux pour des personnes en reconversion professionnelle, pour les managers ou toute personne ayant vécu un traumatisme. Nadej, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement ?
Oui, tout à fait. Alors Ecus, c'est pour moi déjà une aventure incroyable qui a pris forme il y a 4 ans. Moi j'ai un passé DRH et du coup je suis devenue entrepreneuse. Comment ça fonctionne ? Les personnes, elles sont avec deux chevaux en liberté dans une carrière. Elles vont avoir des exercices à faire, des mises en situation immersive. Et du coup, on va prendre des mesures de variation cardiaque sur la personne, sur le cheval, et on va les filmer et on leur fera un compte-rendu détaillé, précis, qui leur donnera un scoring, une capacité d'adaptation. Pour les personnes en traumatisme, elles vont avoir un compte-rendu qui permet de voir l'intensité du trauma et les différents symptômes qui sont présents chez elles.
Mais si on a peur des chevaux, j'imagine que ça ne va pas fonctionner de faire de la thérapie avec un animal comme ça.
Alors souvent, les personnes qui viennent, c'est déjà qu'elles ont une appétence avec les animaux.
Donc ça ne fonctionne pas avec tout le monde quand même.
Alors, pour l'instant, ça a fonctionné avec tout le monde, même avec les personnes qui ont eu peur des chevaux, parce que cette peur, elle dure 3 minutes. Le cheval, c'est loin d'être un prédateur.
Mais vous sélectionnez, j'imagine, les certains chevaux qui ont un tempérament plutôt calme, parce que certains peuvent être un petit peu énervés.
Alors, les chevaux sont plutôt tempérament calmes, c'est pour ça qu'on les sélectionne, et c'est vrai qu'on a des cartes d'identité de chevaux. Mmh. On fait un entretien préalable où on va vérifier qu'est-ce que la personne veut travailler. Est-ce qu'elle veut travailler sa mise en action, sa gestion du stress? Donc oui, tout à fait. Mmh. Oui, c'est ça.
Et pourquoi du coup le cheval? Je veux dire, on n'a pas d'autres animaux, il y a le lapin, le chien.
En fait, le chat.
Il a été reconnu que le chien est un très bon antidépresseur, par exemple.
Exactement.
Alors pourquoi le cheval?
Alors nous, on a déposé un brevet tout d'abord parce que j'aime les chevaux.
Donc, ça coûte cher en plus.
On travaille avec des éleveurs, donc nous, c'est vraiment un partenariat avec eux. Pourquoi le cheval? Il est plus grand, plus fort que nous. Il nous force en fait à sortir notre focus attentionnel, comme il a une grande taille. Il va nous forcer à nous décentrer de notre souffrance. Et en plus, il a vraiment cette empathie comportementale. Il va facilement revenir vers nous, nous réconforter ou nous forcer à nous calmer.
Alors, je comprends que sur le moment, c'est une expérience qui fait que, d'après ce que vous nous dites, on peut effectivement être calmé, rassuré, c'est ça? Mais est-ce que quand on retourne au travail, parce que c'est ça le sujet, hein, c'est quand même la souffrance, le mal-être au travail, quel est l'impact de cette relation avec l'animal dans le quotidien du travail?
Il y a 3 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que tous les comportements réflexes que vous avez mis en place avec le cheval, c'est-à-dire quand j'arrive pas à faire quelque chose, je suis inhibée dans l'action, je suis trop réservée, lui, il va me redonner cette capacité d'action. Et là, faire la transférabilité, j'ai un entretien de recrutement, j'ai réussi à bouger 2 chevaux de 450 kilos, je leur ai fait passer du pas au galop, en fait, là, le recruteur, je
Et
sais...
Et ça marche vraiment comme ça? On vous le dit dans les retours d'expérience? Ça m'a aidé.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Même ne serait-ce que la semaine dernière, on a vraiment des très très beaux retours des personnes qui se disent mais je pensais pas que j'étais capable de faire, et là de l'avoir vécu réellement et d'avoir réussi à bouger cet animal et avoir pris ma confiance en moi, ça a fonctionné.
Il nous reste 30 secondes, mais pour qu'on comprenne bien, ça se passe comment en équipe? Ce sont les RH qui proposent à leurs salariés d'avoir faire cette activité, ou vous adressez directement aux salariés? Comment ça
c'est
se passe?
C'est les conseillers professionnels des entreprises, c'est les DRH qui font appel à nous. Ça peut être aussi les managers ou les groupements, les dirigeants aussi qui veulent envoyer toutes leurs équipes.
Partout en France?
Partout en France. Nous, on intervient avec 2 sites. Donc les personnes se déplacent à côté de Montpellier, à côté de Vauvert.
Et bien voilà. Et si on veut plus d'informations, on va sur votre site, j'imagine?
Oui, tout à fait. www.equus.com, EIQUS.
C'est parfait. Merci beaucoup, Nadège Gajig, directrice générale donc d'Equus, d'avoir été avec nous. Merci, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Sans faute, avec plein de nouveaux sujets. Soyez avec nous. On vous prépare tout ça, bien sûr, pour le week-end prochain. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Un grand merci à Flo et Alban qui sont en régie pour vous faire une émission de qualité. On se retrouve donc le week-end prochain. D'ici là, soyez heureux. Au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.